Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous trouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Gulster et Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon, Nicolas Sendé, réalisation ce matin Benjamin Hu, à la technique Jacques Azubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semeau.
Bonjour.
Alors Emmanuel Macron vient d'effectuer une tournée au Moyen-Orient cette semaine, au Liban d'abord, où le président français avait promis de revenir après sa visite du 6 août, au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth. Il s'y est félicité de la formation d'un nouveau gouvernement dans lequel, je le cite, « toutes les formations sans exception sont engagées, y compris les forces chiites du pays, incontournables pour espérer réformer le pays ». Et la question précisément de savoir s'il faut parler ou non au Hezbollah a d'ailleurs été au cœur d'une violente réprimande du chef de l'État à l'encontre d'un journaliste du Figaro qui avait révélé dans un article des échanges qui ont eu lieu entre Emmanuel Macron et l'un des représentants d'un mouvement dont la branche armée est considérée comme terroriste depuis 1982. Et puis le chef de l'État s'est ensuite rendu du côté de Bagdad, sa première visite en Irak, où il y a rencontré son homologue Barham Saleh, affichant son intention d'aider le pays à affirmer sa souveraineté, je le cite. Mais concrètement, comment peut-il s'y prendre? Quel chemin pour la diplomatie française coincée par les vives tensions entre Washington et Téhéran? De Beyrouth à Bagdad, que cherche Macron pour répondre à cette question, en tout cas pour l'éclairer? Nous avons invité ce matin Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et puis vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Avec vous également Yves Aubin de la Messusière, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France, un spécialiste du monde arabe. On va dans une quinzaine, vingtaine de minutes évoquer toutes ces questions avec vous. Pour l'heure, on va faire un détour du côté du Brésil, notre traditionnel retour d'eux le vendredi en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, et le journaliste qu'on reçoit ce matin est quelqu'un qui d'habitude est au Brésil et là justement est en France, on en profite, c'est le correspondant pour Le Monde au Brésil. Bonjour Bruno Meyerfeld.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors on va commencer pour s'intéresser au Brésil, on va faire un détour et on va s'intéresser à l'Amazonie, on va progressivement remonter parce qu'on va voir que ce qui s'y passe en réalité sont des choses qui concernent l'ensemble du pays, parce que le Brésil, on le sait, est submergé par cette pandémie de coronavirus. La gestion qu'en a fait Bolsonaro a été très critiquée, on va le voir, mais du côté de la forêt amazonie, il y a aussi des conséquences de transformation de la politique brésilienne qui sont colossales. Votre papier s'ouvre sur un homme qui s'appelle Bito, qui est un seigneur d'EVA en plein cœur de la forêt amazonienne. Il s'est levé extrêmement tôt pour aller récolter sa production journalière, 30-40 kilos qu'il porte sur ses épaules. C'est ce qu'il faut de lait pour produire du caoutchouc. Bito, il est là, mais il sera peut-être plus là demain. Et surtout, les seigneurs comme lui ne sont plus aujourd'hui que 20 000 ou 25 000. C'est une évaluation, mais c'est à peu près ça. Quand on pense au nombre qu'ils étaient il y a à peu près 100 ans, c'est-à-dire environ un demi-million, 500 000, on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le nombre de seigneurs a chuté? Et comment Bito voit, lui, son avenir?
Alors, bonjour. Bito vit au milieu de l'Amazonie. Je ne sais pas s'il nous entend. Il a une petite radio dans sa maison sur pilotis à 8 heures de route de la ville la plus proche. C'est une radio qui capte les grandes ondes amazoniennes, donc je doute qu'ils nous entendent. Bito est l'un des derniers seringueiros d'Amazonie et sans doute un des vrais derniers à vivre entièrement de son travail, c'est-à-dire de collecter le latex enseignant les EVA d'Amazonie. Comme vous l'avez dit, pendant le boom du caoutchouc au début du XXe siècle, à l'époque de l'industrialisation, ils étaient plus de 500 000, voire peut-être 1 million en Amazonie à parcourir cette forêt. L'Acre, qui est l'état dans lequel réside Bito, qui est un état à la frontière brésilien, à la frontière entre le Pérou, à la frontière avec le Pérou et la Bolivie, était le grand centre de production de latex et de caoutchouc au monde. Le problème, c'est que l'âge d'or du caoutchouc a vécu. Dans les années 1920, a été créé le latex synthétique, produit notamment en Malaisie par les Anglais. Et la culture du caoutchouc s'est effondrée au Brésil. Elle a un peu été ranimée pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il fallait une production additionnelle de caoutchouc pour les Alliés, que le Brésil a fourni. Mais depuis, c'est l'histoire d'un déclin annoncé de cette culture, parce que les seringueiros étaient un peu nos mineurs de fond. C'était une sorte d'aristocratie de l'Amazonie, dans des conditions extrêmement dures. Mais Les seringueiros ont été massivement aidés par les gouvernements de gauche, en particulier dans l'Acre, qui ont pris le pouvoir dans certains états d'Amazonie, mais en particulier l'Acre, à la fin des années 90, début des années 2000, en même temps que le Parti des travailleurs de Lula au Brésil, qui investit massivement pour permettre à une forêt durable, ce qu'on appelle là-bas une Amazonie durable, d'exister, c'est-à-dire une Amazonie qui serait à la fois protégée et exploitée, économiquement rentable, puisqu'on y cultive du latex, avec des personnes qui y habitent, mais en même temps sur pied, c'est-à-dire avec des arbres non coupés. Parce qu'on parle d'Amazonie, l'Amazonie est un espace géographique où il y a des forêts, mais aussi d'autres espaces comme les savanes. Bon.
Mais et alors là, il faut peut-être introduire une figure très importante, parce que la réserve dans laquelle se trouve Bito s'appelle la réserve Chico Mendes. Alors au Brésil, tout le monde le connaît, en France, c'est pas forcément le cas. Peut-être on peut rappeler en quelques mots qui était cet homme, qui était vraiment une figure colossale de l'écologie politique au Brésil, et ce qu'il a essayé d'instaurer justement dans ces réserves-là pour que ces seigneurs puissent continuer à exploiter la forêt.
Alors Chico Mendes, c'est le plus grand militant de l'environnement de l'histoire du Brésil et probablement un des plus grands d'Amérique latine et du monde. Il est né seringueiro, analphabète, famille extrêmement pauvre de l'état de l'Acre, aujourd'hui où est la réserve. Il a permis, par son action, la mobilisation des seringueiros de la région dans les années 70 et 80. Il a empêché la destruction des forêts de l'Acre. Il a permis, il a été assassiné en 1988 par des fermiers locaux. Il a permis l'apparition de ce modèle qu'on appelle extractiviste et de ses réserves. La réserve Chico Mendes qui porte son nom, mais il y en a à peu près 90 au Brésil sur le même modèle, qui accueille des ouvriers collecteurs de latex, mais aussi parfois de noix ou des pêcheurs. Et c'est ce modèle d'une Amazonie durable dont j'ai parlé, l'Amazonie vivante. Il a, en 1990, après sa mort, on crée cette réserve, réserve Chico Mendes, où est aujourd'hui Bito, où vivent des seringueiros qui doivent exploiter la forêt de manière durable. Donc,
avec le concours du PT, vous le disiez, parce que concours. Lula était très proche de Chico Mendes, il était même là le jour de ses obsèques, et donc quand le PT arrive au pouvoir au début des années 2000, il va participer de la mise en place de toutes ces réserves extractivistes.
Voilà, Chico Mendes était l'un des fondateurs du Parti des Travailleurs avec Lula, et il y a beaucoup de points communs entre les deux, tous les deux syndicalistes, tous les deux issus de milieux très pauvres, et Lula était là le jour de son enterrement. Ce qui s'est passé par la suite, et c'est bon, la raison pour laquelle Bito est aujourd'hui un des derniers seigneurs d'Amazonie, c'est que le modèle a été soutenu massivement par des subventions publiques dans l'état de l'Acre et au niveau aussi brésilien, au niveau fédéral. Sauf qu'avec la crise économique du milieu des années 2000, le déclin du Parti des Travailleurs, la perte finalement en 2018 de l'État par le Parti des Travailleurs, ces subventions ont été coupées, le prix du caoutchouc s'est effondré au marché international, et aujourd'hui il n'y a plus de marché pour ce caoutchouc amazonien, et donc les seringueiros, les seigneurs de latex, se tournent aujourd'hui massivement vers l'exploitation de bétail.
Alors justement, venons-en, parce qu'effectivement, quand on s'imagine d'ici la question de la déforestation, on voit d'énormes machines, des individus qui probablement ont été payés par un patron qui vit dans une ville bien lointaine. Enfin, c'est ça un peu qu'on a en tête. Quand on lit votre papier, on se rend compte que les choses sont très différentes. Vous rencontrez un homme qui s'appelle Mario, qui lui aujourd'hui vend des poules et des haricots. C'est un ancien seigneur. Hein. Il faisait lui aussi, il allait récolter du lait pour faire du caoutchouc. Et sauf qu'aujourd'hui, il le fait plus et il imagine même ouvrir sa parcelle. Hein. Ouvrir, ça veut dire couper.
C'est-à-dire déforester.
Comment il en est venu là? Alors que lui, il tirait justement tous les bénéfices de cette forêt. Aujourd'hui, il veut la couper.
C'est des gens qui étaient issus de cette aristocratie de l'Amazonie, qui étaient fiers d'être seringueiros. Métier très difficile, mais métier de mineur de fond. Voilà. Et en fait, personne ne dit déforester en Amazonie. Tout le monde dit ouvrir l'Amazonie, un peu comme la nouvelle frontière. C'est l'idée. En fait, tout simplement parce que l'exploitation de caoutchouc n'est plus rentable et de moins en moins subventionnée. Ils n'arrivent pas à gagner leur vie en exploitant le caoutchouc. Et leur calcul économique est assez simple. Une forêt sur pied, comme on dit au Brésil, une forêt préservée, a moins de valeur économique qu'une forêt détruite. Donc, en coupant, il y a des tas de règles très compliquées, assez rigides, qui régissent l'exploitation de la forêt dans cette réserve Chico Mendes. Et eux appellent à libérer ces règles et sont prêts, même illégalement, à couper des parcelles de leur terrain, parce que chacun des seringueiros se voit louer un terrain, pour pouvoir cultiver davantage de bœuf, parce que le bœuf, c'est stable, c'est rentable, comme ils disent.
Sachant qu'elles sont même pas respectées, ces règles. Non. L'homme que vous rencontrez, Delmar, qui a une centaine de bêtes, Il l'a coupé, et il fait pâturer, mais il n'a absolument pas respecté les règles. Il a tout coupé et terminé.
Alors Delmar, on le rencontre pas très loin de chez Mario, c'est-à-dire à plus de 3 heures. En Amazonie, c'est pas beaucoup. Delmar, il vous accueille dans sa maison de bois, comme tous les Serengeto, et autour de lui, vous avez une clairière... clairière, ça représente pas trop. Un immense pâturage avec une centaine de vaches. Mais dans la réserve, il y a des personnes qui en ont plus de 1000 des vaches.
Ce qui est parfaitement illégal.
Au maximum, avec la surface allouée, avec les règles de la réserve chez Comnev, vous pouvez élever une trentaine de vaches au maximum. Lui, il en a 100, il y en a qui en ont plus de 1000.
Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a donc l'élevage qui est en plein boom, parfaitement illégal. Il y a les séries sauvages en plein boom, parfaitement illégal. Il y a les abattoirs en plein boom, parfaitement illégal. Et donc, on a toutes ces industries qui fleurissent, qui sont parfaitement illégales. Mais tout ce petit monde, évidemment, qui en bénéficie, eh bien, devient progressivement des soutiens inconditionnels de Bolsonaro. En fait, paradoxalement, ouais. Politiquement, Bolsonaro est en train de se faire des soutiens dans cette forêt amazonienne.
C'est la chose qui est importante à comprendre par rapport à la destruction de l'Amazonie, qu'on a du mal parfois à comprendre. On imagine, comme vous dites, un grand patron qui paie pour saccager la forêt, qui ne s'intéresse pas à la biodiversité. Le problème amazonien est un problème économique, c'est un calcul économique. Si les gens sont payés un prix décent pour préserver la forêt, ils la préservent. Aujourd'hui, ça n'est pas rentable de préserver la forêt, donc on la détruit. Chaque petit exploitant a sa petite mesure, sauf que tous ensemble, ça fait un désastre. Ils soutiennent Bolsonaro, pas parce qu'ils le connaissent bien. Vous imaginez bien que Bito, Delmar, Mario, ils entendent parler de Bolsonaro par la radio. Leur horizon se limite souvent à leur clairière ou à leur exploitation. Ils soutiennent Bolsonaro parce que Bolsonaro leur dit « Vous allez pouvoir vivre et survivre » d'un travail décemment rémunéré, qui est l'exploitation de bœuf. Et eux ne se rendent pas compte qu'au niveau amazonien, c'est un désastre. Et la déforestation commence par là. Le soja, les grandes industries arrivent ensuite. Mais comme vous l'avez dit, il y a tout un système, un réseau qui permet de faire sortir illégalement le bœuf, le soja, le bois d'Amazonie à travers des abattoirs, des scieries, etc. Mais dans ce système, vous trouverez personne qui vous dira « je détruis la forêt parce que j'ai horreur des arbres et je ne crois pas au changement climatique ». Les gens ont un réseau beaucoup plus restreint et c'est un calcul économique dans lequel nous avons une responsabilité puisque une bonne partie de ces produits sont exportés et achetés ici à Paris et en France et en Europe.
Il y a en ce moment un projet de loi qui vise à amputer une partie de cette réserve Chico Mendes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la réserve elle-même, mais aussi plus généralement pour toutes ces réserves extractivistes? Parce qu'en réalité, il y en a beaucoup en Amazonie. Est-ce que c'est la fin des réserves extractivistes et donc de l'exploitation durable de ces forêts?
Il faut s'inquiéter pour plusieurs raisons. Il faut s'inquiéter déjà, un, parce que l'Acre était un état modèle dans la préservation de la forêt. Donc, si l'Acre lâche symboliquement ses réserves, cette réserve Chico Mendes, qui porte le nom du plus grand défenseur de l'environnement brésilien et d'Amérique latine, symboliquement, toutes derrière sont menacées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite à la destruction des réserves. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas 36 modèles de préservation de l'Amazonie. On a la réserve l'air protégé, où il n'y a personne. On a la réserve indigène, où il y a des Amérindiens qui vivent, etc. Et il y a la réserve extractiviste, c'est-à-dire avec des travailleurs à l'intérieur, mais qui exploitent la forêt de manière durable. Ce sont, pour résumer, les trois grands piliers de la préservation amazonienne. Si le pilier extractiviste tombe, on peut être certain que derrière, les prochaines victimes seront les Indiens. Et par ailleurs, dans l'écosystème amazonien, qui est un écosystème très fragile, la réserve Chico Mendes, qui fait quand même la taille du Liban, on parle d'un million d'hectares, se situe non seulement juste collé à une réserve indigène très importante, mais en plus, juste à côté d'une des aires de plus grande biodiversité de la planète, qui s'appelle la Serra do Divisor, qui est à la frontière avec le Pérou. Si la réserve Chico Mendes lâche, on peut être assuré que derrière, la réserve indigène lâchera et que la Serra do Divisor sera menacée. Ça fait des dizaines d'années que les fermiers veulent construire une route à travers cette réserve pour relier le Brésil au Pérou et au Pacifique.
Quittons l'Amazonie, Bruno Meyerfeld. Le Brésil, je le disais tout à l'heure, c'est l'un des pays qui a été le plus touché. Je regardais le bilan hier, c'est plus de 123 000 décès. Bolsonaro, il a été très critiqué dans sa gestion de la crise, en tout cas au début. Il avait parlé de grippette, on s'en souvient. Il y a des chiffres qui ont été maquillés, il a moqué l'utilité des gestes barrières, du port du masque, il a prôné la rouverture à tout prix de l'économie et peut-être un peu trop tôt. Il y a quand même eu depuis quelques mois la démission de non pas un mais de deux ministres de la Santé. Et pourtant politiquement, il va très bien. Vous écrivez, je vous cite, « La crise due au coronavirus, ses drames innombrables, ses morts et ses malades lui ont offert comme un bain de jouvence. » Comment comprendre que Bolsonaro ait tiré un tel profit de la crise sanitaire ?
Bolsonaro a jamais été aussi populaire au Brésil depuis son élection. C'est un fait, c'est révélé par des sondages. Il est aujourd'hui à 37% d'opinion positive favorable contre 29% il y a un an. Donc il est un des rares dirigeants de la planète à avoir réussi à tirer parti de la crise et à en sortir par le haut. Alors la crise n'est pas finie et le pouvoir brésilien est largement un château de cartes. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas à quel point c'est conscient chez Bolsonaro, mais c'est un pays qui une personne qui sent bien son pays, qui connaît son Brésil et qui sait appuyer là où ça fait mal. Il a compris, je pense, peut-être inconsciemment, qu'à long terme, que le Brésil ne pourrait pas se protéger contre le Covid dans les conditions actuelles de la crise économique, la moitié de la population travaillant en noir, la promiscuité, la pauvreté. Il a compris que à long terme, la bataille qui va compter pour les gens, ce sera la bataille économique. Et s'il se faisait champion de l'économie, ce qu'il s'est proclamé dès le début, alors qu'il ne connaît rien à l'économie, il le dit lui-même, s'il se battait pour les petits travailleurs, le petit peuple qui allait perdre son emploi, à long terme, ou à moyen terme, il en bénéficierait, c'est ce qui s'est passé. Par ailleurs, a été créée pendant la crise du Covid, pas du tout à son initiative, une aide d'urgence d'une valeur de 600 reais, donc quelques dizaines d'euros, à la destination des plus modestes, notamment des personnes qui sont dans l'économie informelle, qui a été vécue comme qui a permis à des tas de gens de maintenir la tête au-dessus de l'eau pendant la crise. Et un peu à la manière de la Bolsa Família de Lula, les gens se sont sentis directement aidés par Bolsonaro, alors qu'il n'est pas à l'origine de cette mesure. Et pour des tas de gens, ils ont l'impression que Bolsonaro les aide directement en leur donnant une aide financière tous les mois. Et voilà, sa popularité grimpe dans des régions très pauvres, notamment dans le nord-est du Brésil, qui étaient favorables à Lula grâce à cette aide d'urgence.
37%, c'est évidemment énorme, mais ça fait quand même une majorité de Brésiliens qui aujourd'hui ne le soutiennent pas. La force de Bolsonaro, est-ce que c'est pas aussi la faiblesse de ses adversaires ? Aujourd'hui, il y a pas de figure alternative à Bolsonaro. Il y a personne qui a su construire un front anti-Bolsonaro. Ouais. C'est aussi ça le problème.
Mais alors, le Brésil est un paysage politique extrêmement fragmenté et 37%, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'avec 37%, même si on perd quelques pourcents dans la course, on passe au deuxième tour. Et donc, c'est l'objectif de Bolsonaro parce qu'il se dit que le rejet du PT, du Parti des Travailleurs et de la gauche étant toujours aussi fort, au deuxième tour, contre un candidat de gauche issu du Parti des Travailleurs, il peut gagner. Et ça, c'est vrai. Oui, il y a pas d'offre alternative au Brésil aujourd'hui. Le principal leader de l'opposition, ça reste Lula. Un Lula vieillissant, un Lula chez lui depuis 6 mois, confiné chez lui depuis 6 mois à cause de la crise du Covid, qui s'exprime par les réseaux sociaux, mais dont le discours tourne beaucoup en rond et qui a toujours une actualité judiciaire chargée. À côté, on a des petits partis satellites de gauche qui existent surtout dans les grandes métropoles du Sud-Est et chez les Brésiliens les plus informés, on va dire. Et on a des personnalités de droite qui, au début de la crise du Covid, ont pris parti contre Bolsonaro, notamment les gouverneurs de Rio et de São Paulo, en disant on va lutter contre le coronavirus. Sauf qu'ils se sont cassés la figure parce que finalement, ils n'ont pas réussi à confiner leur population et arrêter le Covid et qui sont aujourd'hui complètement décrédibilisés. Donc, à droite comme à gauche, il n'y a pas grand monde pour faire obstacle ou même répondre à Bolsonaro.
Donc un boulevard pour une reconduction potentielle.
Alors, on est encore à 2 ans des élections, mais il est plutôt bien placé.
Merci beaucoup Bruno Meyerfeld d'être passé aujourd'hui dans nos studios. Je rappelle que vous êtes donc journaliste au Monde, le correspondant du Monde au Brésil. Et puisque vous êtes à Paris, je vous dis qu'on a beaucoup de plaisir à vous lire très régulièrement dans les colonnes du Monde. On peut retrouver tous les articles dont on a parlé, Bruno Meyerfeld, sur le site du Monde. Grand merci et bon retour au Brésil.
Merci beaucoup.
Sua voz será ouvida como força de oração do amor pela terra que não se encerra num coração. Sou mais um nessa guerra, quebrando a serra da devastação. Me abraço a natureza e a Deus peço axé. Em louvor a Chico Mendes, sua luta, sua fé. Homem simples, ser ninguém.
pas eu le temps de passer.
Allez, on tourne la page brésilienne avec cette chanteuse Simone, qui, avec ce titre qui est sorti en 1989, référence à retrouver. Parfois, on nous le demande par mail, les références de toutes les chansons, de toutes les musiques, tous les morceaux sur la page de Culture Monde. Allez, direction le Moyen-Orient, de Beyrouth à Bagdad. Que cherche Macron? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, le chef de l'État s'est rendu au Moyen-Orient, au Liban d'abord, théâtre, on s'en souvient d'une terrible explosion au début du mois d'août, et en proie à une crise économique, sociale et politique sans précédent.
Je l'ai dit, je ne suis pas revenu ici pour prendre acte d'un accord entre les partis politiques libanais ou pour adouber, accepter, donner une reconnaissance à quelque choix que ce soit. Ça n'est pas le rôle de la France. Je ne suis pas venu pour apporter je ne sais quelle caution à telle ou telle personne, ni pour acter un résultat de façade. Je suis volontaire et lucide sur les difficultés comme sur ce que nous pouvons réussir, sur ce que vous pouvez réussir. Je suis donc venu ici pour aider le Liban et l'accompagner vers son avenir, la formation d'un gouvernement de mission, d'abord et avant tout.
Voilà, la visite d'Emmanuel Macron au Liban avait plusieurs objectifs. D'abord, rappeler ce lien particulier du pays avec la France, mais aussi s'assurer que les blocages politiques sont en voie d'être surmontés afin d'engager un vrai mouvement de réforme dans ce pays qui connaît de graves difficultés. Et pour ce faire, il faudra faire aussi avec les forces politiques chiites du pays et donc faire avec le parrain iranien qui exerce une influence très importante. De même que du côté de l'Irak voisin, où là aussi Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine, en Irak, où là aussi l'Iran a évidemment un poids énorme. Alors comment Paris peut se sortir de cette équation moyenne-orientale? Nos invités Agnès Levallois et Yves Aubin de la Messusière sont toujours avec nous, je les remercie. Marc, on commence avec vous comme on fait tous les vendredis. Alors effectivement, vu d'ici, on voit bien qu'on a quelque chose de l'ordre d'un succès, en tout cas sur le plan médiatique, ça ressemble clairement à un succès, on a l'impression que ça a avancé, sauf qu'au Liban, il faut se méfier parce que c'est extrêmement compliqué et qu'en réalité, tout reste à faire et tout va se jouer avec Téhéran.
Oui, et pas seulement au Liban. Alors, incontestablement, Emmanuel Macron a le sens de la propos et du geste. Il a été le premier chef d'État à se rendre au chevet de Beyrouth. Il a mis sous pression la classe politique. À Paris, beaucoup ont crié à l'ingérence. Au Liban, il a été applaudi. Donc, la diplomatie macronienne est incontestablement une diplomatie du coup d'éclat permanent. Dans un monde cannibale, marqué par le retour des puissances, c'est finalement, le seul moyen de se faire entendre, en plus c'est quelqu'un qui s'expose en personne, qui paye de sa personne, on l'a vu s'activer ainsi il y a exactement un an pour essayer d'organiser une rencontre entre Donald Trump et Hassan Rouhani, d'ailleurs sans succès, afin de faire baisser la tension autour du nucléaire iranien. Alors ses intuitions sont fortes, sa communication est efficace, mais objectivement les résultats sont maigres. L'amitié surjouée avec Donald Trump n'a pas empêché le président américain de continuer dans sa stratégie d'America First. L'ouverture à Poutine, il y a un an, n'a sans surprise rien donné. La France est empêtrée au Sahel, impuissante en Libye et hors-jeu en Syrie, même si Macron tente de revenir au Levant via le Liban et l'Irak. Alors, finalement, seulement en Europe, à propos de la solidarité par rapport aux conséquences de la pandémie, ça a marché. Mais sur les crises qui sont aux limes de l'Europe et qui appelleraient une réponse commune des Européens, finalement, Paris est assez isolé. C'est frappant avec la Turquie. Emmanuel Macron tense Erdogan, il prend des pauses martiales, mais finalement, ceux qui travaillent vraiment, ce sont les Allemands, c'est la diplomatie allemande, et c'est l'Allemagne qui joue finalement ce rôle de puissance d'équilibre qui parle à tous.
C'est vrai que Agnès Levallois, Yves Aubin de la Messusière, c'est quelque chose qui semble criant l'isolement en réalité de Paris, ni du côté de Washington, ni même du côté de Berlin, on semble soutenir. Alors évidemment, on n'est pas contre l'initiative, mais on soutient pas trop Agnès Levallois.
C'est vrai que l'initiative serait plus forte s'il y avait une véritable concertation. Alors il semblerait quand même que Macron, avant de partir au Liban et en Irak, a consulté ses alliés, en particulier les Allemands. Mais on voit bien que cette démarche, et ça c'est un peu la marque de fabrique du président français, c'est-à-dire, et comme l'a très bien dit Marc Sémo, il sent très bien le moment et il fonce. Mais c'est vrai que je pense que dans un contexte tel que le contexte du Moyen-Orient aujourd'hui, toute démarche française isolée ne peut pas donner d'effet, ou en tout tous les cas, les effets ne peuvent être que extrêmement limités et qu'il faudrait absolument, alors je ne parle pas de démarche européenne, parce que je pense qu'il n'y a pas de consensus en Europe sur ces différentes questions, mais au moins le tandem avec l'Allemagne permettrait d'être plus fort, d'autant plus, et là aussi Marc Semo l'a bien rappelé, l'Allemagne est extrêmement présente dans la région, de façon très discrète, mais extrêmement présente à travers sa diplomatie, mais son aide économique, à travers ses fondations, les think tanks, les centres de recherche qui travaillent énormément sur la région et qui ont développé une expertise tout à fait intéressante et particulière, me semble-t-il.
Yves Aubin de la Messuzière, en première intention, est-ce que cette diplomatie du cavalier seul, d'une certaine manière, peut fonctionner, vous qui êtes diplomate?
Écoutez, si cette diplomatie que j'appelle cette diplomatie de mission, quelque sorte, hein, avec, comme on le disait tout à l'heure, cet engagement physique et politique du président de la République, qui a eu un effet, effectivement, au sein des différentes populations au Liban, plus particulièrement, disons, à Achrafieh, c'est-à-dire au sein de la communauté chrétienne, hein, parce qu'il y a toujours, effectivement, ce tropisme que j'ai observé d'ailleurs par ailleurs sur d'autres dossiers à l'égard de cette communauté chrétienne. Et alors le problème est de savoir si effectivement, puisqu'il y a eu des consultations précédemment, mais on peut pas quand même comparer, disons, le rôle et l'influence de l'Allemagne et de la France, parce que au Liban et puis au Proche-Orient en général, parce que il y a cette histoire partagée, parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans la relation entre le Liban et la France, la présence de cette très forte communauté libanaise aussi, qui s'est beaucoup mobilisée ici en France. Et puis il y a, le Liban est au cœur de la francophonie. Donc là, dans le cadre de ce qu'on appelle, parmi les attributs de la puissance, le fait qu'on est membre permanent du Conseil de sécurité, on mobilise régulièrement l'ONU. On l'a vu lors pour bouter en dehors du Liban les Syriens. C'est la France qui avait pris cette initiative dans le cadre des Nations Unies. Et on sait que le président Macron croit beaucoup au multilatéralisme. Il n'a eu de cesse de le dire et de le redire. Alors on verra, parce que c'est encore une fois... Effectivement, il agit seul. Il est, je pense, sur la scène internationale à ce stade isolé. Quoique, s'agissant du Liban, il a montré la capacité de la France, et ça c'est la marque de la diplomatie française, de pouvoir parler à tout le monde, et notamment Hezbollah.
Et oui, mais c'est pas sûr que ça l'aide à sortir de l'isolement dont on parlait juste.
Non, justement, ce qui va créer des problèmes, non seulement avec les Américains. D'ailleurs, il y a sous-secrétaire adjoint américain du département d'État qui est actuellement là à Beyrouth. Et quel discours doit-il tenir? Parce que là, il y a cette hostilité à l'égard de l'Iran et donc du Hezbollah. Et même les Saoudiens et les Émiratis ne doivent pas être... Parce qu'en quelque sorte, Macron, il a adoubé le Hezbollah. Mais le Hezbollah, nous avons des contacts réguliers avec le Hezbollah. Mais là, ça a été un niveau supérieur et c'est le président de la République.
Je fais juste une petite incise et je te laisse poursuivre. Mais quand même, pour les auditeurs qui n'ont pas forcément toutes les informations et qui est une information importante, je l'ai dit un tout petit peu au début de l'émission, il y a eu ce moment marquant de la visite d'Emmanuel Macron avec cette réprimande très forte au journaliste du Figaro, Georges Malbruno, qui avait sorti un article dans lequel il expliquait qu'Emmanuel Macron avait rencontré des responsables du Hezbollah, en l'occurrence Mohamed Raad, qui est le président du bloc parlementaire du Hezbollah. Emmanuel Macron lui a dit, je cite, ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin. Sauf que la question de savoir si on parle ou pas au Hezbollah est important pour comprendre d'abord la stratégie d'Emmanuel Macron et pour espérer obtenir quelque chose. C'est-à-dire parler à tout le monde, c'est aussi parler au Hezbollah. Une fois que ça est dit, je vous laisse poursuivre, voilà, cher Marc Semo.
C'était dans la même logique. C'est-à-dire, est-ce que le problème n'est pas que le Liban n'est pas une île, que le Liban est le champ clos de l'affrontement de toutes les puissances régionales, que c'est très bien de parler au Hezbollah, pourquoi pas, c'est un État dans l'État, ou plus exactement c'est un État dans un non-État, mais la chose qu'a dit Emmanuel Macron, toujours en croire le Figaro, ça a été de dire, mais prouvez que vous êtes Libanais, au Hezbollah, le problème c'est que l'agenda du Hezbollah, la stratégie du Hezbollah, c'est Téhéran. Et là-dessus, est-ce qu'on a un moyen d'agir?
Agnès Levallois, et ensuite...
Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que c'est vrai que le Hezbollah a des liens privilégiés, plus que privilégiés avec l'Iran, c'est une évidence. Mais le Hezbollah est un parti politique libanais, avec un groupe parlementaire, donc au sein du Parlement. Et donc, le responsable de ce bloc parlementaire a été reçu à la résidence des Pins lors de la première visite de Macron et lors de la deuxième visite, parce que il a reçu tous les groupes parlementaires du Parlement libanais et que la France considère que si les Libanais ont voté pour des représentants de Hezbollah, c'est pas à la France de dire on ne parle pas avec ce groupe. Et à partir du moment où Macron arrive au Liban en disant, en reconnaissant que ce système politique ne peut plus fonctionner puisqu'il est arrivé à bout de souffle et qu'il a montré son incapacité dramatique à gérer les affaires du pays avec la crise financière, économique, sociale que l'on connaît, à partir du moment où il va à Beyrouth et qu'il réunit les chefs politiques, le Hezbollah fait évidemment partie des gens qui sont assis autour de la table. Alors ça crée des tensions avec nos alliés, avec l'Allemagne, avec les États-Unis ou autres, mais ça c'est une prise en considération de la diplomatie française, des forces sur le terrain, en distinguant, alors cette distinction qui fait hurler certains, le mouvement politique du mouvement armé, de la résistance. Évidemment, et on peut discuter de cette distinction, mais en
distinction qui a été faite, par le Royaume-Uni et l'Allemagne ces dernières années, puisqu'on a interdit toutes les activités du Hezbollah, y compris les activités politiques. On met de côté les questions armées, où là, tout le monde,
tout le monde est d'accord.
Voilà. Et c'est sur la question de l'activité politique.
Et c'est vrai que pour être réaliste, et je pense que Macron est réaliste, si on veut apporter un changement politique, on ne peut pas de toute façon mettre à côté de la table Hezbollah, qui est partie prenante de la vie politique libanaise.
Et c'est là toute la difficulté, Yves Aubin de la Missusière, parce qu'on dit parfois la diplomatie française doit parler à tout le monde, ce qu'elle n'a pas toujours fait. Là, elle parle à tout le monde, sauf qu'en parlant à tout le monde, elle se met à dos Washington, éventuellement ses alliés européens. Non, mais c'est compliqué, ça aussi.
Alors, j'ai observé, ce qui est très intéressant, c'est un discours, plutôt un message, qu'a transmis le président de la République au forum Moyen-Orient-Méditerranée à Lugano, et qui s'est tenu juste à la veille de son second déplacement. Et là, il a élaboré davantage, et de manière, à mon avis, imprudente, quand il a dit, s'agissant du Liban, eh bien, il faut dissocier le Liban des crises régionales. Ce que vous disiez, là, Marc Semo, là, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas imaginer, il faut le mettre, la solution de la crise libanaise, dans le contexte régional. Alors, il a parlé des puissances perturbatrices. Notamment, il a parlé de l'Iran, bien entendu. Et là, je rejoins pour dire, on n'est peut-être pas là tout à fait d'accord, Marc Semo, c'est que le Hezbollah a son propre agenda, qui n'est pas forcément celui de l'Iran, parce que c'est un mouvement ancien, c'est pas une création artificielle de l'Iran. Il existait sous d'autres formes, bon, très bien. Il représente c'est donc une force, comme vous le disiez, c'est un État dans l'État. Et donc, il faut en tenir compte.
État dans le non-État.
Oui, c'est beaucoup plus juste comme formulation. C'est certain. Alors voilà, donc là...
Vous noterez que dans le forum de Lugano, il avait absolument pas parlé du Hezbollah. Alors évidemment, il n'allait pas dévoiler sa stratégie qui consistait à aller justement s'en parler, mais il n'a à aucun moment dans ce forum, moi si j'ai lu évoqué la question du Hezbollah.
De l'Iran.
Qui est pourtant la clé.
Oui. Et par contre, là, parmi les puissances aussi, les acteurs régionaux qui peuvent être perturbateurs, il y a aussi Israël. Donc, qui viole régulièrement, bon, sans doute, elle a des raisons de le faire parfois, la souveraineté libanaise depuis des années, depuis des décennies, avec les survols, maintenant ce sont les drones. Et puis, le Liban a été confronté à trois conflits avec Israël, 1978, 1982 et 2006, et avec des pertes considérables du côté des populations civiles. Et on parle beaucoup du problème de l'énergie et des centrales électriques. Elles ont été détruites en 2006 par des bombardements israéliens. Donc, alors, il faut aussi parler, évidemment, avec les Israéliens. Et alors, ce qui, là, pour revenir sur le... C'est là où, effectivement, il y a un changement, parce que la seconde visite de Macron au Liban ne s'est pas aussi bien passée que la première. Parce que quand il a dit « c'est la dernière chance, les propositions que je fais, du système libanais », c'est une manière de dire « ben voilà, le système politique
pour sauver le système,
le légitime,
que ne veulent pas les Libanais précisément ».
Oui, et il a été confronté à des manifestations, d'ailleurs je crois que c'était dans les quartiers d'Achrafieh, de ceux qui disent « révolution, révolution, il faut abattre le système ». Et voilà que le président de la République française protège en quelque sorte ce système. Donc, voilà. Alors, le problème est de savoir s'il y aura une réussite, disons, au niveau libanais dans l'action qu'a menée le président de la République.
C'est vrai, Agnès Levallois, que la première fois, premier déplacement, il se place en sauveur du peuple libanais et la deuxième fois, un peu en sauveur du système libanais, ce que vont pas beaucoup aimer les citoyens.
C'est toujours le « en même temps » du président Macron, avec toutes les limites que ça représente. Et c'est vrai que autant des Libanais ont été contents de cette ingérence, autant certains l'ont quand même vraiment critiqué très, très vivement. Et pour continuer et pour compléter sur ce qui vient d'être dit, on a beaucoup parlé du Hezbollah, mais il y a une chose, je crois, sur laquelle il faut bien s'entendre, c'est que toute la classe politique, aujourd'hui au Liban, Hezbollah, Hamas, les chrétiens, les sunnites, tout le monde est d'accord pour que ce système se maintienne. Et que toutes les forces politiques ont le même agenda aujourd'hui, qui est de résister à ces pressions françaises, de la communauté internationale, pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Et là, il ne s'agit plus de savoir si vous êtes Hezbollah, si vous êtes partie du futur de Saad Hariri, ou si vous êtes druze, ou si vous êtes... L'objectif de toutes ces forces politiques, c'est de se maintenir. Et c'est bien ça le problème qui se pose aujourd'hui au Liban, avec les Libanais qui ne veulent plus de ce système. Et c'est là où le message de Macron est très ambivalent et suscite la colère des Libanais en disant... Pourquoi Emmanuel Macron remet une pièce dans la machine pour que ce système se maintienne, alors que nous, on sait très bien que ce système ne peut pas se réformer, puisque ces chefs politiques, qui sont les anciens chefs de guerre, toujours en place depuis la fin de la guerre civile en 90, n'ont qu'un objectif, c'est quoi qu'il arrive, donner le minimum de signes, de preuves à la communauté internationale et à la France en particulier, pour que l'aide internationale soit décaissée et pour qu'on reprenne nos magouilles habituelles, puisque comme le disent beaucoup de Libanais, c'est un système avant tout mafieux. Donc c'est ça la difficulté pour Macron, qui dit que... Il entend ce que veulent les Libanais, mais quand il dit qu'il donne une espèce de dernière chance à la classe politique de se réformer, les Libanais n'en veulent pas parce qu'ils savent que cette classe politique ne peut pas, c'est un leurre. Et d'ailleurs, la nomination du Premier ministre à la veille de l'arrivée de Macron est la démonstration de cela. On a sorti un nom du chapeau. Alors, je parle pas de la personne, qu'est-ce qu'elle est, ça m'intéresse pas. Mais cette personne a été directeur de cabinet de Najib Miati, qui a été Premier ministre, qui est député de Tripoli, qui est un des plus grands milliardaires du Liban et qui a des enquêtes contre la corruption menées par la justice libanaise. Donc, comme renouveau et comme gage donné de quelqu'un de propre, d'expert et de propre...
Il ne sera pas accepté par la rue.
Il n'est pas accepté. Il ne l'est pas.
Et donc, Yves Aubin de la Messusière, il y a quand même là une véritable erreur politique. Parce que quand on dit, oui, c'est très bien, il faut parler au Hezbollah, que d'une certaine manière, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec ce représentant du Hezbollah, ça a porté ses fruits parce que ça a permis de lui tordre le bras et de l'obliger à un compromis politique. En réalité, c'est une fausse lecture parce que ce qui se joue, c'est pas tellement de savoir si le Hezbollah veut participer au gouvernement, veut accepter effectivement cette feuille de route, veut bien ce gouvernement de mission, mais c'est la question de savoir s'il veut bien se sauver lui-même. Donc en fait, c'est une mauvaise lecture qu'on a.
Non, mais il faut placer aussi la question du Hezbollah. Donc c'est une nécessité si on veut faire bouger les choses. Faire bouger peut-être à la marge le système, malgré tout, on verra bien, puisqu'il y a des élections législatives là qui s'annoncent. Peut-être il ne faudrait pas que ce soit dans la précipitation, parce qu'il y a une possibilité de modifier la loi électorale. Comme ça a été fait, d'ailleurs, après 2008, moi j'étais observateur pour le compte d'Abdou Diouf, président de l'OIF, pour les élections législatives, et j'ai vu comment, à travers la loi électorale, on peut faire bouger les choses. C'est-à-dire, il pourrait y avoir effectivement des réformes que progressives, en dehors des réformes structurelles autour de l'énergie, autour effectivement de la mise en place d'un organisme pour lutter contre la corruption. Et là, il peut y avoir quelques avancées, mais pas majeures, qui puissent mettre en question le système. Mais concernant le Hezbollah et concernant l'influence de l'Iran, on ne peut pas imaginer que le Hezbollah puisse, et l'Iran, bouger, c'est-à-dire ne pas avoir une main aussi lourde, que ce soit en Syrie et au Liban, aussi longtemps que l'Iran est frappé par ses sanctions américaines. Il ne bougera pas. Là, il a donc des appuis. Il a, c'est sa profondeur maintenant stratégique, c'est la Syrie, c'est le Liban. Donc rien ne pourra bouger. C'est pour ça que je pense que, véritablement, pour sauver le Liban, quoique... Il a connu d'autres tragédies, il en est sorti, il y a une capacité de résilience des Libanais et de la société libanaise formidable. Quand on voit la guerre civile...
Pardon, mais là on est dans une crise vraiment inédite.
Non, c'est une crise inédite parce qu'elle est économique, elle est sociale. Oui. Mais quand même, ils ont eu 15 ans de guerre civile, 100 000 morts, 3 guerres avec les Libans, enfin bon. Et je pense qu'ils sont... Non, parce que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont annoncé, disons, la disparition du Liban et le Liban livré aux actions terroristes, aux groupes terroristes. Bon, c'est pas la situation. Et je ne crois pas à une nouvelle guerre civile au Liban. Hein, c'est l'analyse. Il va y avoir des difficultés considérables et ça, il n'y a pas de doute. Alors, je pense que pour faire bouger les choses, on ne peut pas le faire sans les Américains. Ça, c'est évident. Parce qu'ils ont une influence considérable, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut attendre les nouvelles échéances électorales aux États-Unis, de voir s'il y a une alternance. Alors là, il y aura peut-être une possibilité de faire bouger les choses. Mais le président serait bien inspiré, effectivement, de remettre ce dossier dans un contexte beaucoup plus régional et dans un contexte multilatéral.
Agnès Levallois, pardon, je vous laisse poursuivre, mais il y a peut-être un élément qui pourrait nous permettre d'être, d'y voir un peu plus clair sur ce que le Hezbollah est prêt à faire ou pas, jouer le jeu ou pas de la diplomatie française, c'est la question de l'engagement dans des terrains extérieurs, en Syrie, au Yémen. Quand le président Macron a rencontré, s'il l'avait en tout cas, le représentant du Hezbollah, il lui aurait dit « montrez que vous êtes Libanais et par ailleurs, revenez au pays et désengagez-vous, partez du Yémen, partez de la Syrie ». Ça vous paraît possible ça, ce désengagement du Hezbollah de ces terrains-là ?
C'est-à-dire que le problème, je crois que là...
Parce que là, ça nous permettrait de voir, pardon, s'il joue le jeu de la diplomatie française ou non.
Mais je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'engagement de l'Iran sur la scène régionale et le Hezbollah est un bras armé, si je puis dire, de cet investissement. Et il y a l'agenda politique du Hezbollah sur la scène libanaise. Ce sont deux choses différentes. Donc aujourd'hui, quand Macron demande ça au Hezbollah, c'est aussi en Iran qu'il doit négocier ça, plus que simplement vis-à-vis du Hezbollah, même si le Hezbollah, lui, doit aussi, évidemment, prendre un engagement. Mais sur cet aspect-là des choses, la décision sera prise à Téhéran et le Hezbollah obtempérera. Mais il y a un autre aspect qui est vraiment la dimension purement libanaise. Et je crois que cette dimension purement libanaise est une évidence. Et que tout ce que l'on dit là, depuis le début de cette émission, sur la chance ou non des réussites de Macron, on la raccroche trop, me semble-t-il, à la scène régionale et pas assez aux dynamiques interlibanaises. On ne parle pas du mouvement de contestation, on ne parle pas de l'opposition qui se structure actuellement au Liban même, pour représenter une alternative à ce qui se passe. Tout ne se joue pas uniquement, ça joue évidemment, mais tout ne se joue pas et uniquement à Riyad, à Paris, à Téhéran. Il y a aussi des dynamiques internes.
Si le Hezbollah acceptait de sortir du Yémen et de Syrie, vous vous rendez compte du signe politique à l'intérieur du pays ?
Oui, mais cette décision sera prise, comme je dis, par Téhéran et le Hezbollah l'appliquera. Parce que là, pour le coup...
Et donc c'est bien à l'extérieur que ça se joue.
Oui,
donc c'est
bien à l'extérieur que ça se joue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des dynamiques internes au Liban dont on ne parle pas. Et qui sont des dynamiques internes qui existent. Et je pense qu'il faut aussi, que lorsqu'on parle de la visite de Macron, parler aussi de ce que veulent les Libanais et pas simplement les jeux régionaux. Voilà,
bien sûr. Ramener ça, mais ça juste un point, Maxime. Au sein du Hezbollah, qui commande, les politiques ou les militaires?
Ben là, sur les questions qui se jouent actuellement sur la réponse à la proposition internationale, c'est le politique et le militaire qui est là, bien sûr, parce qu'il a un agenda, lui, local et régional. Donc, il y a vraiment toute cette...
Mais imaginons le scénario de Florian. Voilà, effectivement, se retirer du Yémen et de Syrie, c'est un geste fort.
Mais c'est pas le Hezbollah qui...
Les politiques ont les moyens de dire « il faut faire ça ».
Oui, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques du Hezbollah au Liban ont une marge de manœuvre sur la scène politique intérieure, sur la question du système, de l'aide attendue si les réformes se font ou non, où leur intérêt, c'est que des réformes, que l'aide arrive, donc d'accepter de bouger un tout petit peu comme les autres forces politiques. Il n'y a pas que le Hezbollah qui est en cause. Et vous avez la dimension régionale avec l'engagement de l'Iran à travers l'envoi parfois de milices du Hezbollah, mais ce n'est pas que le Hezbollah, sur les terrains régionaux. Je crois qu'il y a vraiment ces deux... ces deux aspects à bien prendre en compte.
Alors, on va... parce qu'il faut qu'on parle de l'Irak aussi. Hein, le temps passe et c'était quand même la première visite d'Emmanuel Macron du côté de Bagdad. Je voudrais qu'on en parle. Mais d'abord, place à notre rendez-vous du vendredi, notre bulle cartooning du vendredi, avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
présenté par Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Le dessin ce matin nous vient du Liban justement et c'est un regard peu flatteur de cette scène politique libanaise.
Vous voyez l'expression bourbier libanais ? Eh bien en voici une illustration avec ce dessin signé Hassan Bleibel, un caricaturiste libanais d'origine irakienne basé à Beyrouth. Le bourbier, ici on pourrait traduire aussi par le marigot, était essentiellement représenté par ses habitants, à savoir des crocodiles. De nombreux crocodiles aux couleurs bien tape à l'œil, vert, orange, rouge, jaune, évoquant les couleurs des nombreuses factions, partis et communautés de la scène politique libanaise. Alors je ne sais pas si l'allégorie du crocodile est flatteuse. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est que toutes ces bêtes sont représentées tenues en laisse par un homme, Emmanuel Macron. Son visage est un peu coupé, on voit surtout ses bras, l'un tenant les crocodiles attachés, l'autre un bâton qui les menace et les force à avancer. Et quand on y regarde de plus près, ce bâton, c'est aussi une lettre, la lettre Alif en arabe, et qui a effectivement la forme d'un bâtonnet. Et la lettre Alif qui est aussi l'initiale du nom du premier ministre libanais, Mustapha Adib. Adib, un ancien diplomate dont la nomination aurait reçu l'aval, si ce n'est plus, de Paris. Le voici en tout cas dans ce dessin solidement tenu en main par Emmanuel Macron, voire même l'instrument par lequel le président français tirerait les ficelles du jeu politique libanais. Alors s'agit-il d'un fantasme du passé mandataire, comme pourrait le suggérer le chapeau d'explorateur dont est affublé à Emmanuel Macron, ou d'un pouvoir de pression bien réel? Dans un entretien accordé au Monde le 31 août dernier, le grand historien du Moyen-Orient, Henri Laurence, nous donne quelques éclairages sur les ressorts des relations franco-libanaises depuis 1990, rappelait-il. C'est la France qui a porté l'économie libanaise pour la renflouer périodiquement par des conférences successives, avant de préciser « fait nouveau depuis 3 ans », Paris insiste, pour que les engagements pris soient tenus avant de nouveaux paiements. Voilà peut-être une explication de la docilité des crocodiles. De ce qui autorise finalement le président français à dispenser ses leçons de gouvernance et imposer une feuille de route. Pour autant, cette posture surplombante est-elle la plus efficace pour assainir le bourbier libanais? Réponse dans quelques années ou à la prochaine crise.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon pour ce dessin qu'on retrouve notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Agnès Levallois, je vous ai vu réagir et opiner du chef.
Non, ce qui est sûr, c'est que l'obsession aujourd'hui de cette classe politique, c'est que l'aide internationale soit débloquée parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses et que ce système ne fonctionnait que parce qu'il était alimenté par l'aide extérieure, ouais, par les remises des Libanais à l'extérieur. Aujourd'hui, tout ça, c'est asséché, il n'y a plus d'argent. Donc, l'obsession de ce système, c'est de se maintenir, donc de dire à Macron, on a bien fait nos devoirs d'été, on a nommé un Premier ministre, donc on est correct, donc maintenant, il faut que l'argent soit débloqué. Alors, Macron, quand même, qui est conscient de la réalité de la situation, dit maintenant il faut un gouvernement, donc on va voir si le gouvernement est nommé, qui on va nommer, mais cette classe politique, et pour moi ce sont vraiment des mafieux avant d'être des politiques, je sais que je suis très sévère quand je dis ça, vont donner les gages qu'ils estiment être nécessaires pour que l'argent soit débloqué. Est-ce que la France va tomber dans ce panneau? Je ne pense pas, parce que je crois quand même que le président Macron est tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer. Mais le seul objectif, c'est d'arriver effectivement à faire en sorte de réalimenter la machine pour continuer à faire vivre le système qui est que chaque chef politique reçoit l'argent qu'il redistribue à sa communauté et donc les affaires continuent comme si de rien n'était.
Alors, l'Irak, c'était la première visite d'Emmanuel Macron à Bagdad, il va au bain de la Messuzière. L'Irak est dans une situation aussi extrêmement difficile. D'ailleurs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les contestations sociales qui dénoncent précisément des institutions complètement incapables de conduire les affaires du pays et qui aussi demandent à dépasser cette confessionnalisation du paysage, on les retrouve aussi du côté de l'Irak. On se dit que du côté d'Emmanuel Macron, il y a évidemment ce désir de contrer là aussi les velléités de Téhéran. L'influence, on le sait, de l'Iran est très forte du côté de l'Irak. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Macron, à Bagdad? Évidemment, alors, officiellement, il y a la question de la lutte contre le djihadisme. Très bien, mais c'est aussi contrer l'influence de Téhéran. Surtout ça, c'est ça son objectif.
Non, je ne crois pas. C'était une visite prévue. Déjà depuis un certain temps, d'ailleurs.
Secrète,
il a été précédé par le Drian à Bagdad. Et le président Hollande s'était rendu en 2017 sur l'Irak, donc il fallait qu'il s'y rende, en raison, surtout pour parler de l'actualité de la lutte contre le djihadisme, pour montrer que la France est toujours engagée, quoique elle s'est en partie désengagée, effectivement, la moindre force là-bas, mais elle est toujours. Hein, donc c'est ce qu'il a dit très clairement aux autorités irakiennes. Ça, c'était quand même l'objectif premier. Et puis, il y a aussi un autre
objectif. Il n'a pas annoncé un renforcement de la présence française.
Non, au contraire.
Il n'a pas annoncé non plus qu'il allait en retirer. En gros, rien ne change.
Oui.
Donc l'objectif,
enfin, il a allégé en quelque sorte une partie, d'après ce que je comprends. Hein. Comme le font aussi les Américains, mais on reste engagé hein, dans la coalition. Ça, il n'y a pas de doute. Et aussi, contrairement au Liban, c'est que nous avons, au moins potentiellement, des intérêts commerciaux et économiques considérables avec l'Irak, qui détient les deuxièmes réserves mondiales de pétrole. Et c'est un pays qui est amené à se reconstruire, effectivement qui n'en a pas les moyens en raison de la chute du prix du baril du pétrole, mais qui est d'ailleurs dans une position, autant à l'époque effectivement que moi j'ai connu, lorsque j'étais ambassadeur en Irak, où il y avait un privilège pour la France hein, concernant les grands contrats et d'extraction pétrolière en particulier. Et puis là, maintenant, je crois qu'on est à la 10e place, au 10e rang.
Oui, parce que Bagdad n'a plus la main sur cette question.
Non, oui, mais si, quand même. Si, il a. Alors, beaucoup et concernant...
Beaucoup moins qu'à l'époque. Vous
non. Et concernant, dans son discours qu'il a tenu, parce qu'on retrouve des similitudes entre le Liban, effectivement, vous l'avez dit, le confessionnalisme, il n'y a pas de doute, il a beaucoup parlé, c'est son thème récurrent qu'on a trouvé notamment à Lugano, et c'est la restauration de la souveraineté nationale. Et je ne crois pas qu'il ait critiqué frontalement la présence iranienne, parce que elle est ce qu'elle est, et effectivement, elle est contestée, pas par tous les chiites, mais une partie des chiites, c'est quand même un événement considérable qui s'est passé il y a quelque temps, lorsque dans le sud, en pays... presque exclusivement chiite, il y a eu des slogans anti-iraniens. L'Iran dehors. Parce que il y a le chiisme irakien, il y a une forme, disons, d'iraquité du chiisme en Irak. Hein, donc, il y a une influence, il n'y a pas de doute, de l'Iran auprès de certaines milices. Hein, parce que c'est ça le problème. Hein, c'est le problème. C'est la question des milices, contrôlées et rattachées à l'Iran, hein, qui pose problème. Et c'est, voilà. Donc, je ne crois pas. Alors, il y avait l'idée aussi d'une grande conférence internationale. C'était une idée à la fois, je pense, de Macron, hein, dans le cadre onusien. Mais finalement, j'ai l'impression que ça fait flop, que finalement, les Irakiens, pour ne pas avoir de trop de problèmes avec l'Iran, n'en veulent pas pour l'instant.
Donc en tout cas, une nouveauté, c'est-à-dire une forme de retour du nationalisme irakien, y compris en territoire chiite. Marc Semo et ensuite Agnès Levallois.
Il y avait eu chez Emmanuel Macron, justement, quand Le Drian avait été en élément précurseur, dirions-nous, à Bagdad, la tentation d'un pari irakien. Hein, l'idée était même que Emmanuel Macron, Le Drian y avait été, aille à Najaf, rencontrer Ali Sistani, la plus grande autorité chiite. Bon. Mais est-ce que finalement ce pari irakien, alors qui misait sur la mémoire effectivement des liens qu'il y avait entre la France et l'Irak, qui misait sur le fait que l'Irak était un espèce de truc d'équilibre parce que c'était finalement le seul pays de la région où les Iraniens et les Américains avaient chacun une très forte influence et étaient tour à tour en phase d'affrontements aigus, on l'a vu avec la mort de Soleimani, mais aussi d'intérêts communs parfois.
Donc, tu es par une frappe de drone américain, pardon.
Oui,
mais vous vous rappelez pour les auditeurs, ils sont tous complètement à la pointe, Marc.
Voilà. Alors, est-ce que ce pari irakien, qui était l'idée comme ça de pouvoir revenir dans la région, encore faisable?
En fait, Agnès Levallois. C'est toute l'idée du pivot régional qui avait été élaboré par la diplomatie française l'année dernière à l'égard de l'Irak. C'est-à-dire que la diplomatie avait tiré les enseignements du fait que le Moyen-Orient était dans un chaos total et que l'Irak était le pays qui recommençait à émerger et que donc il fallait qu'on en fasse le pivot régional. C'était la grande idée du président Macron qui devait à ce moment-là aller en Irak, qui n'a pas pu y aller et là qui est allé effectivement réaffirmer cela. Je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, l'Irak a été géré et est géré, moins aujourd'hui, mais l'a été pendant longtemps, une espèce de cogestion américano-iranienne. Ce qui paraît un peu surprenant quand même, hein, parce que ça paraît bizarre que les Américains et les Iraniens aient réussi à co-gérer l'Irak pendant des années. C'est en train de disparaître en raison de la politique américaine dans la région, hein, qui est quand même moins présente de façon claire comme elle l'a été à une époque. Et donc la France se dit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a sûrement une carte à jouer en termes d'influence régionale à partir de l'Irak. Ça ne sera pas à partir de la Syrie. Le Liban, on a bien vu toute la complexité complexité de la situation aujourd'hui et c'est un trop petit pays pour pouvoir jouer ce rôle. Et donc l'Irak est le pays qui peut être ce point, ce pivot régional tel que la diplomatie l'a élaboré. Et donc je pense que c'est ça que Macron est allé réaffirmer au-delà de la question de la souveraineté, qui évidemment la souveraineté irakienne qui est essentielle, mais c'est pour la France de pouvoir à partir de là rayonner et avoir cette influence qu'elle espère retrouver dans la région.
On pourrait retrouver, il nous faut une situation il y a quelques années, une trentaine d'années.
Une dizaine d'années, oui.
Yves Aubin de la Messusière.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec
l'analyse
de...
Moi, je pense que les résultats risquent d'être assez limités pour l'instant, oui. Parce qu'on a quand même, en fait, au bout du compte, peu de cartes et peu de moyens vraiment concrétiser tout cela.
Il faut bien investir. Ça peut marcher cette idée de refaire de l'Irak ce centre au Moyen-Orient pour la France.
Alors, ça dépend beaucoup des évolutions aussi régionales, hein, parce que finalement, ce qu'il manque dans la diplomatie macronienne, c'est qu'il n'y a pas une vision globale de l'ensemble des crises, c'est-à-dire proche-orientale et moyen-orientale, c'est-à-dire on les traite l'une après l'autre. Et alors que toutes ces crises se tiennent, se nourrissent les unes les autres. D'ailleurs, pour revenir, et j'ai eu l'occasion d'une tribune publiée dans Le Monde, pour dire que, par exemple, il a parlé de toutes les crises à Lugano. Mais il y a une crise quand même qui est fondamentale, qui est historique. Et c'est le conflit israélo-palestinien, pas un mot. Alors que je dirais pas qu'il est toujours central, mais il est toujours présent et que sa solution permettrait de résoudre aussi d'autres crises.
Mais il a raison. Alors, il a perdu sa centralité, ce conflit, précisément. Et tous les acteurs de la région sont assez d'accord pour acter cette idée.
Il y a eu cet accord qui n'est pas encore véritablement.
Mais même avant l'accord.
Entre les Émirats arabes unis. Et Israël, il faut le confirmer, parce qu'il y a deux interprétations, comme souvent lorsqu'on parle du Proche-Orient, des interprétations ou des résolutions des Nations Unies ou des accords, deux interprétations différentes. C'est-à-dire les Émirats arabes unis en disant, voilà, Israël a renoncé à annexer les territoires, et Netanyahou qui dit, ce n'est que provisoire, et ne sont que suspendus. Cette intention n'est que suspendue pour l'instant. Alors, bon, voilà, donc c'est ce qu'il manque. Alors, je pense que pour revenir à l'Irak, là, nous avons des intérêts aussi économiques et commerciaux, il faut en parler, hein. Mais de pouvoir jouer, la France n'a pas les leviers pour jouer un rôle central dans, disons, la résolution de la crise interne, disons, irakienne, parce qu'elle est extrêmement forte. Et donc là, il faut... Parce que il faut toujours revenir aux sanctions et à la dénonciation par Trump de l'accord nucléaire. C'est ça qui, finalement, a créé davantage le chaos et a renforcé l'influence iranienne dans la région. Jamais l'Iran ne renoncera à son influence dans toute cette région aussi longtemps que les sanctions sont maintenues. Mais je pense que l'Iran, si il devait y avoir une alternance à Washington, à ce moment-là, les discussions peuvent reprendre et on peut imaginer que, effectivement, l'Iran puisse ne pas avoir une main aussi lourde dans toute cette région.
Et là, peut-être, ça offrirait une opportunité pour Paris.
Ça peut être une opportunité pour Paris.
Habibi, Habibi, b'hibba. غني يا حزيني من سيك شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبها قصتنا غني بغنيها انا وياه.
Qui était quand même une avancée considérable.
Voilà, il est
et à partir de là,
les discussions se poursuivent. On va poursuivre tout ça. Yves Aubin de la Messusière, merci infiniment d'avoir été. Aucun problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Agnès Levallois également. Merci beaucoup, Marc Sémon, notre partenaire du Monde. Comme chaque vendredi, on se quitte avec évidemment la sublime voix de Férouz. Dans un très court instant, on retrouve Lucille Comeau.